Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous les amis, 18h03, ravi de vous accueillir dans un nouveau Team Dugas, c'est jusqu'à 20h sur RMC avec Jean-Louis Tour qui est avec nous ce soir. Bonsoir mon Jean-Louis,
bonsoir.
Comment vas-tu?
Bonsoir, salut Dugas, salut tout le monde.
Ça va l'ami, un gros programme, j'espère que t'es en forme aujourd'hui.
Ouais, comme d'habitude, je suis en grande forme.
Comme d'habitude, exactement, putain, mais t'es un colosse, c'est fou.
Un
ça,
colosse
c'est... Oui. Ah ouais, t'es un colosse. Bien pas sûr. Que physiquement, je parle bien évidemment.
De moins en moins physiquement.
De moins en moins, oui, non. C'est ça, ouais. Nous accueillons Eric Dimeco également, bonsoir Eric.
Salut Dugas, salut Jean-Louis, j'entends un petit sourire dans ta voix. J'ai un petit sourire de joie d'accueillir à nouveau dans notre émission.
Ah oui, bah, c'est une chance que là,
il y a un comeback.
Oui, je sais que ça te fait plaisir de t'avoir, petit
le nouveau,
petit.
Le nouveau maire de Suresnes.
Ouais, presque, t'as raison. Ouais.
Franck Leboeuf est parmi nous. Bonsoir, mon Francky.
Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ouais. Bah, moi, ça me fait vraiment plaisir de revenir. Je vois, tu as dit que c'est un colosse, Jean-Louis. Non, il s'affine.
Merci.
Alors, c'est quoi? Alors, parce que, attends, parce que moi, je viens d'arriver à le studio, donc je ne l'ai plus vu depuis longtemps.
Ouais.
Donc, tu fais le régime, c'est ça? Tu es fier de toi?
Il a acheté une balance.
Ben non, c'est pour ça que j'aimerais que tu me donnes des chiffres, parce que ça se voit pas.
Le truc, c'est qu'il a acheté une balance pour.
On est à 3.
C'est la fameuse avec l'application qui s'est dit. Oui, comment ça s'appelle déjà?
Le problème, c'est que.
Wizin.
Ouais. Oui, le problème, c'est qu'on lui a dit qu'il avait perdu 700 grammes, mais ni dans la.
Ça, c'est des détails pour qui tout le monde s'en fout.
Non.
Mais en gros, j'ai perdu 3,5 kg là depuis.
Il avait des bières.
Par contre, tu n'as pas perdu ni masse graisseuse,
ni masse osseuse, ni de l'eau, ni
musculaire, ni rien.
On demande où sont partis.
Ils sont jaloux, c'est fou.
Exactement, du gars, merci.
Alors, t'aurais grossi 10 kg, il te défend sur le terrain, t'en as perdu 3,5. Il trouve à redire.
Elle a l'air super, cette application.
Allez, on y va pour Team Dugas. Donc avec
On parle pas de Francky, les élections, le machin, tout ça.
Allons-y, Francky, ça s'est joué à combien de voix?
Comment ça s'est passé? Comment ça a été?
Je ne les ai pas toutes comptées.
3 millions de voix, ça s'est
joué. Non, on a 50 000 habitants, mais attention, le grand vainqueur, tu sais, quand tu perds, tu sors des phrases. Quoi. Oui. Le grand vainqueur, c'est l'abstention.
C'est la vie. Voilà.
C'est la grosse
phrase. C'est la démocratie.
Non, on a perdu, on s'est bien battu, mais on a fini 3ème, on a fait 20% dans une triangulaire.
Ils ont fini 3ème sur tour.
Oui, mais c'est bien. En médaille d'or. Non, parce qu'avant, il y avait du monde.
Normalement, on a fini dernier.
On a passé le premier tour quand même. Mais écoute, non, mais voilà, tout va bien.
Donc tu nous as lâché pendant 2 semaines pour finir 3ème.
Non, je ne vous ai pas lâché.
C'est ça.
On m'a fait lâcher, on m'a dit dégage pendant 15 jours, et puis maintenant je reviens. Voilà.
Et oui, le temps de parole.
Le temps de parole politique dans une émission de sport.
La parole est de l'or en politique.
Et le temps de conneries, quand est-ce que sera arrêté le temps de conneries aussi? Comme ça, on en dira un peu moins, c'est possible ça?
Ah, mais ton émission devra s'arrêter comme
ça. Tu sais quoi,
c'est pour ça qu'ils ont arrêté ton émission.
Nouvelle série d'anti. Team Dugas, on a commencé ça hier, on va le faire pendant 2 semaines. On revient sur des débats marquants dans l'histoire de Team Dugas. Et à 19h30, l'indignation de Franck Leboeuf sur Memphis Depay.
Quel scandale, ce jet de maillot.
Le jet de maillot, ouais, mais il regarde, tu vois, ça voulait dire beaucoup de choses.
Bien sûr. Est-ce qu'il se fout vraiment?
Ça fait combien que tu remines ça? Ça fait 15 jours ou...
Non.
Ça fait 2 ans.
ça fait 2 ans.
Se fiche-t-il vraiment de l'OL, Memphis Depay? On en reparlera donc tout à l'heure. On présentera aussi Barça Atlético ce soir. Avec cette question, le Barça doit-il faire sa révolution? Fred Hermel viendra nous raconter à quel point c'est tendu à tous les étages, notamment autour du salaire de Léo Messi. Ce sera tout à l'heure à 19h. Et puis Dugas, tu feras la connaissance de la deuxième personne la plus importante à Bordeaux après toi. Le nouveau maire Pierre Urmic sera avec nous à 18h30. Lui qui a demandé clairement à l'actionnaire King Street de remplacer Frédéric Longuépée. Il viendra donc s'expliquer à 18h30 et on pourra en débattre puisque ça ne plaît pas à certains présidents de club.
Jean-Louis, c'est la place des Kinkos, par exemple, si Dugas se promène avec le nouveau maire, qui est le plus sollicité d'après toi?
Ah, bah Dugas.
Ah, voilà, on est d'accord.
Ah, bien sûr.
D'accord. Il me semblait aussi. Hein.
Ah, ouais.
D'accord.
Vous croyez?
Je pense. Hein.
Ah bah oui, là,
oui, là, là, on est à peu près sûr, personne ne connaît sa tête.
Il n'y a même pas, il même pas dit.
Même les Bordelais connaissent pas sa tête au niveau
Si, les Bordelais, si, ça fait très longtemps qu'il est dans l'opposition.
Oui, c'est vrai. Il paraît que c'était très coriace. Ça faisait des années et des années qu'il se battait pour essayer de. Bravo. Exactement. J'aime bien, moi, ce genre de destin.
Il a réussi, exactement.
Ce genre de destin.
Il sera avec
toujours avec la même conviction, surtout. C'est ça qu'il faut souligner.
C'est vrai aussi.
Tout à l'heure, 18h30, il sera avec nous.
On va on lui passe un coup de lipette.
Elle a changé cette émission.
On lui passe un coup de lipette, comme ça, il viendra plus facilement.
On débute par Rennes. Mohamed Bouafsi est avec nous. Bonsoir, Mohamed.
Salut, du gars. Salut, Francky. Bonsoir, salut, Eric.
Salut,
on reçoit le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Florian Maurice est avec nous dans Team Duga. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut, comment il va, le Florian?
Flo,
ça va très bien, très bien.
Mais quel bonheur de t'avoir. Mais ça fait 4 ans que je te cours après. C'est pas possible.
Pourtant, je suis pas très rapide. Hein. À l'époque, je savais très bien, mais t'as pas réussi à m'arrêter, c'est que tu vas
mais
encore.
Non, mais on arrive plus facilement à voir Emmanuel Macron que t'avoir à toi au téléphone. C'est pas possible, ça.
Donc, avec Flo, si tu te promènes sur la place, comment elle s'appelle la grande place à Lyon déjà?
Bellecour.
Avec le nouveau maire de Lyon, c'est toi le plus sollicité, je présume, non?
Ah, mais là, il est à Rennes. Hein.
On s'en fout, mais il est lyonnais quand même au départ. Comment pas sûr?
Non, le nouveau maire de Lyon,
personne
le connaît. Il a été élu, c'est qu'il est. Oui, mais il va être connu. On connaissait Gérard Collomb, mais il va peut-être être aussi connu que lui dans les années qui viennent.
Ouais, mais pas pour le Florian Maurice.
Bon, alors, pourquoi, déjà, en préalable, pourquoi, Florian, vous n'étiez pas dans Team Duga au préalable? C'est parce que j'imagine que dans votre conception, un directeur de recrutement ne s'exprime pas dans les médias, contrairement à un directeur sportif qui est votre nouvelle fonction à Rennes. Pour expliquer à Duga.
Oui, je suis pas quelqu'un de média réellement. Mon nouveau poste va certainement m'obliger à en faire beaucoup plus. Mais c'est vrai que en tant que responsable du recrutement à Lyon, c'était pas du tout ma place, je vais dire, d'être dans les médias. Voilà pourquoi j'ai été un peu absent ces dernières années.
Ouais, il faut dire qu'il y en a un qui prend une grosse place.
Suffisamment de monde qui s'exprime du côté de Lyon. Justement, Florian, est-ce qu'on peut résumer à ton départ du côté de Rennes à une promotion, à un palier que tu avais envie de passer, tout simplement?
Oui, pour moi, c'est une promotion. Je passe de responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais à directeur technique du Stade Rennais. Pour moi, c'est une promotion, un nouveau challenge pour moi aussi. Donc, j'avais envie de voir ce qu'il était possible de faire dans ce club de Rennes, et je suis vraiment très très content d'être là aujourd'hui.
Justement, comment ça se passe du côté de Rennes? Tu es déjà installé, tu es déjà en place, j'imagine tu travailles déjà depuis plusieurs semaines. Comment les choses se passent avec aussi un président qui est novice? Comment les choses se mettent en place?
Écoute, très très bien. Je suis arrivé la semaine dernière, faire connaissance un peu avec tout le monde. Tu sais, j'arrive dans un nouveau club où faut prendre ses marques. Je connaissais pratiquement personne. Donc ça se met en place tranquillement, mais de la meilleure des manières. Vraiment, j'ai été vraiment très très bien accueilli par l'ensemble du club, pas seulement le président et l'entraîneur, mais toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux. Voilà, c'est un club très sain où ça travaille bien. Et où je me sens très très bien depuis mon arrivée.
Quelle mission, quel objectif t'ont été fixés par l'actionnaire ou par le président, je n'en sais rien, qui t'a recruté? Quel est l'objectif qui t'a été fixé?
L'objectif, c'est de continuer, je vais dire, à faire évoluer le club avec les personnes qui sont au club depuis quelque temps aussi. J'ai envie que ce club-là soit aussi reconnu en France encore un peu plus, mais tout en continuant à s'appuyer sur ce qui a été fait, parce que j'arrive pas pour tout chambouler. Je veux m'appuyer sur ce qui a été fait et bien fait depuis quelques années. Mais voilà, l'ambition, c'est de continuer à grandir.
T'as un budget pour recruter? Comment ça se passe avec l'entraîneur notamment? Est-ce que vous avez déjà fixé des recrues, un budget fixé par le président pour travailler? Comment les choses vont se passer?
On a des idées sur les postes à renforcer. Après, tu sais que le mercato est ouvert aujourd'hui en France, donc c'est des choses qui vont se mettre petit à petit en place. Le mercato va être très très long, à mon avis très très long. Donc il faut être patient. Après, en termes de budget, on fonctionnera avec le budget du club. On fera pas n'importe quoi. Il y a un actionnaire qui est là et qui nous donne des directives aussi. Mais en tous les cas, on ne fera pas n'importe quoi en termes de recrutement et en termes d'investissement.
Florian Maurice, le nouveau directeur sportif de Rennes, en direct dans Team Dugas sur RMC. On va pouvoir aborder plusieurs dossiers, Mohamed.
Oui, Florian, on peut dire clairement que la priorité du Stade Rennais, c'est un défenseur central. C'est là la priorité ?
Ça fait partie des priorités. On a envie, comme je le disais tout à l'heure, de se renforcer. Ça fait partie des postes où on a besoin effectivement de se renforcer.
C'est définitivement mort la piste Salissou.
On a entamé des démarches il y a quelques semaines de ça. On est toujours en contact. On est toujours en contact avec le club et l'entourage du joueur. Donc pour l'instant, on reste actif sur ce dossier.
Très bien. Il y avait également le nom de Badiachil qu'on a vu passer.
Le nom de Badiachil avec une offre du Stade Rennais pour le joueur de Monaco. C'est toujours le cas. Lui aussi, c'est une opportunité.
On a vu passer 15 millions pour lui.
Parce qu'il a une offre aussi de 15 millions de Leverkusen. Lui, c'est aussi une opportunité pour vous.
C'est un joueur qui fait partie d'une liste de défenseurs qu'on a identifiés. Après, en termes de moyens, c'est aussi un jeune joueur. On souhaite avec Julien et le président évoquer tous ces dossiers-là tranquillement, pas à pas. On n'a pas envie de jeter nos œufs dans le même panier. L'idée, c'est d'avoir plusieurs pistes à chaque fois sur ce type de poste et en essayant de faire la meilleure acquisition possible.
Ça veut dire que Florian,
tant sur le plan investissement, tant sur le plan sportif évidemment.
Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui un club comme le Stade Rennais peut investir 15 millions d'euros comme ça sur un joueur sans aucun problème.
Sans aucun problème, je sais pas. Disons qu'on a plusieurs postes à pourvoir, donc on va essayer de faire les meilleurs investissements possibles. Après, est-ce que aujourd'hui on peut aller jusqu'à 15 millions? Je souhaite pas m'exprimer là-dessus parce que ça va dépendre aussi des autres postes à pourvoir en fonction du budget global pour l'ensemble des postes à pourvoir.
Et justement, Flo, tu as pour recruter, comment ça marche? Tu as une enveloppe qu'on te définit, des priorités que le coach t'indique et tu dois faire le travail, bien sûr en concertation avec tout le monde, mais voilà, tu as les postes à pourvoir et une enveloppe, c'est ça?
On peut connaître
l'enveloppe?
Non, je vous la donnerai pas parce que ça va dépendre, je vous dis, d'une qualification peut-être ou pas en Champions League. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte et ça, aujourd'hui, on peut pas le savoir exactement.
Justement, la difficulté, c'est ça. Vous construisez une équipe en vue de la Ligue des Champions, ou en vue d'une Coupe d'Europe ou vous attendez de voir?
Aujourd'hui, on n'est pas en Champions League aujourd'hui. Du moins, à l'instant T, on n'est pas en Champions League. Donc, il faut essayer de réfléchir sur une équipe compétitive pour jouer une Coupe d'Europe. Et derrière, si en fonction de la qualification ou pas du Stade Rennais, soit directement, soit par des playoffs, on verra, on ajustera en fonction. Mais aujourd'hui, on peut pas se permettre de dire, on est un club qui va jouer la Champions League, donc on a un budget de temps. Donc c'est ça qui est un petit peu délicat, mais on travaille sur divers dossiers à des tarifs différents.
Quelques questions sur des joueurs. Pardon, Julien.
Non, juste une question, après je te laisse, Mohamed. Justement, comment vous allez fonctionner avec le coach? S'il y a un litige sur un joueur que toi tu veux, lui veut pas, et vice-versa, qui tranchera? C'est toi qui as le pouvoir de trancher, de décider, c'est le président, comment ça va se passer?
Il n'y aura pas de litige, parce que dans ma manière de fonctionner, et je l'ai déjà dit, je n'imposerai pas des joueurs à un entraîneur, parce que c'est voué à l'échec. Donc il faudra qu'on trouve un joueur que tout le monde veut. Voilà, d'accord. Exactement. Parce que c'est voué à l'échec complètement. Tu sais très bien, tu as été joueur, vous avez tous été joueurs. Un directeur sportif qui veut un joueur et un entraîneur qui ne le veut pas, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Donc, et moi, j'ai envie de réussir. Donc ça fonctionnera de cette manière-là pour qu'on puisse réussir tous ensemble. Et pour le Stade Rennais.
Florian, est-ce que vous avez la certitude qu'Amari Traoré va rester au club?
Il est sous contrat, Marie. Il lui reste un an de contrat, donc il sera là.
Et vous discutez d'une prolongation de contrat c'est la tendance?
Oui, on discute d'une prolongation avec Amari.
D'accord. Une dernière question sur un joueur qui pourrait rester au club, c'est Camavinga. Le président était très clair. La famille Pinot, l'actionnaire principal de Rennes, veut le conserver. Il va rester au club lui aussi, vous en avez la certitude?
Et pour moi, il n'y a aucun sujet. Il n'a même pas été évoqué à mon arrivée. Pour moi, c'était clair que ce joueur-là devait faire partir du projet du Stade Rennais sur la saison qui arrive.
Si Zizou t'appelle et te dit « Flo, on te propose 80 millions pour Camavinga », tu ne le laisses pas partir?
Non.
Bah, tu peux te le faire reprêter derrière. Pourquoi non ?
Ah, déjà, dire non, non à 80 millions du Real, c'est beau.
Non, parce qu'on a envie de continuer avec ce joueur-là. On pense aussi que pour lui, il est important qu'il puisse continuer à évoluer au Stade Rennais. Il a tout à gagner en restant encore.
Il a inculqué, pour qu'on comprenne encore mieux le garçon. Il a inculqué qu'il fallait qu'il passe encore une année, jouer la Ligue des Champions avec Rennes. Il est pas contre. Il va pas y avoir un bras de fer avec le garçon. Si.
Non, écoute, du gars, je suis arrivé il y a 5 jours. J'ai pas pris le temps de voir tous les joueurs encore. D'accord, mais d'accord. Voilà, mais en tous les cas, dans son esprit, c'est un très bon garçon, c'est un super joueur, évidemment, vous le connaissez aussi bien que moi. Mais voilà, après, c'est des discussions qu'on aura ensemble, mais de mon côté, en tout cas, et de notre côté, on n'a aucune intention de laisser partir Eduardo cette saison.
Terrier de Lyon, est-ce qu'on en parle ? Est-ce que c'est possible ou pas ?
Ça a l'air chaud.
Oui, ça fait partie des joueurs, je l'ai dit déjà, qui ont été identifiés à ce poste-là pour pouvoir venir au Stade Rennais. Il n'y a pas que lui, évidemment, mais oui, il fait partie des cibles qu'on a identifiées, qui étaient déjà identifiées avant que j'arrive. Hein. C'est pas que mon arrivée qui fait que l'intérêt du Stade Rennais, il est pas d'aujourd'hui pour lui.
Mbanyang, c'en est où à Marseille ou ailleurs, ça s'en est où pour ce garçon?
Et est-ce que vous regrettez ses déclarations quand il a dit qu'il avait envie d'aller jouer à Marseille, que c'était un club qui lui plaisait?
Non, mais ça, moi j'ai vécu ça à Lyon avec Memphis Depay sur des joueurs qui sont ambitieux, qui ont envie de voir ailleurs. Ça, c'est des choses que j'entends. Voilà. Donc maintenant, après, c'est des discussions qu'on aura avec lui, que j'ai eu un peu déjà avec lui notamment. Et voilà, on s'est expliqué. Et il faut noter aussi que le joueur a de l'ambition, peut-être envie d'aller jouer ailleurs, comme nous personnellement à l'époque on avait peut-être envie d'aller jouer dans des clubs supérieurs. Je l'entends. Après, c'est sûr que il faudra qu'il y ait des discussions. Il est sous contrat avec le Stade Rennais, donc je pense qu'on verra tranquillement comment va se passer la préparation, le mercato pour lui.
Comment ça se passe justement dans des discussions quand c'est comme ça? Est-ce que le président Jacques-Henri Hérault t'appelle pour te dire, écoutez, pour l'instant on n'a formulé aucune offre, on n'est pas pour l'instant intéressé, ou peut-être que oui? Justement, est-ce qu'il y a un gentleman agreement, tu vois, pour justement pour parler, pour discuter quand il y a des annonces comme ça?
Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais eu Jacques-Henri Hérault au téléphone.
Le président Hlevec s'est entretenu avec Jacques-Henri Hérault il y a quelques jours.
Voilà. Tu as parlé tout à l'heure de Memphis Depay. Si je peux me permettre, tu le connais bien, tu l'as vu à Lyon. Et on va faire un petit encart tout à l'heure. Est-ce que toi, qui as été un grand entraîneur, comment tu juges un garçon comme ça dans ses performances? On parle sportivement. Est-ce que tu juges que c'est un grand attaquant comme il le dit lui-même, ou est-ce que tu penses que il a besoin de faire énormément d'autres efforts pour pouvoir être considéré comme tel?
C'est un formidable joueur. Vraiment, c'est un formidable joueur. Il n'a pas encore donné sa pleine mesure parce que il a besoin de recevoir beaucoup, beaucoup d'attention, ce qui est très difficile hein, pour un entraîneur dans ce style de joueur-là. Mais c'est des joueurs qui font de la différence. Et on en a connu à notre époque également. Et lui, c'est véritablement un excellent, excellent joueur.
Flo, quand tu es en négociation, enfin quand le Stade Rennais est en négociation avec un club pour un joueur, qui se charge des contacts? C'est toi? C'est le président Hlevec? C'est comment ça marche?
On se partage les missions à ce niveau.
D'accord. Donc tu vas être peut-être amené à contacter l'Olympique Lyonnais pour récupérer un de leurs joueurs. Ça te posera pas de problème?
Aucun pour moi.
D'accord.
Moi, je suis parti de Lyon. Ça fait partie de mon histoire, Lyon.
Non, mais tu t'es fait le président. Alors, par dépit amoureux, j'ai l'impression, t'es un petit peu égratigné quand tu es parti.
Oui,
donc, il avait l'air d'être un peu agacé. Donc, tu l'as revu depuis? Tu as pu discuter ou tu le recroiseras et vous en discuterez tranquillement après?
Pour l'instant, j'ai pas eu de contact avec lui. Je le recroiserai certainement, bien sûr, parce que j'irai à Lyon voir des matchs, notamment le Stade Rennais. Donc, forcément, je vais le croiser à un moment donné. Maintenant, je me suis exprimé par rapport à ça. Évidemment, je le répète, c'est toujours des mots qui font mal, mais voilà, je les entends.
C'est du dépit amoureux, c'est comme je te disais, il était déçu parce qu'il t'aime beaucoup, je pense.
Oui,
que
certainement,
c'est ça.
Certainement.
Justement, sur Lyon, Juninho, donc le directeur sportif, arrête pas de dire qu'il a envie de changer les mentalités des joueurs à Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos?
Du moins, les propos de Juninho, c'est les propos de Juninho. Après, moi, il pense comme il le souhaite. Je ne veux pas intervenir sur les propos que lui a tenus.
Non, mais parce que vous connaissez bien le club, vous connaissez bien les joueurs, c'est pour ça, de Lyon.
Oui, oui, bien sûr. Après, c'est sa perception. En face de moi, je n'avais pas l'impression d'avoir des mauvais garçons. Après, il faut peut-être faire évoluer les mentalités, mais moi, je n'avais pas l'impression d'avoir des mauvais garçons en face de moi à chaque fois que je les côtoyais. Ce sont ces mots et je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus.
Je suis désolé de revenir sur Lyon, Flo, mais tu as été déçu quand on a proposé le poste à Juninho et qu'on ne te l'a pas proposé, ou est-ce qu'on t'a proposé à un moment de ce poste-là et que tu ne t'es peut-être pas senti et qu'on l'a proposé à Juninho et pas à toi? Tu as été déçu?
Non, alors c'est pas de la déception, c'est que à partir du moment où on me propose pas le poste, ça veut dire que peut-être je le mérite pas. Et après, je suis complètement en phase avec le président quand il fait revenir Juninho, qui est une personne emblématique à l'Olympique Lyonnais. C'est son choix, c'est le choix de Jean-Michel Aulas, et je dois le respecter. Ou alors, si je le respecte pas, et que j'ai une opportunité ailleurs de devenir.
Comme tu as fait là.
Exactement. Mais je respecte totalement la décision de Jean-Michel Aulas. C'est son club. Il fait exactement ce qu'il souhaite avec son club.
Mais tu avais émis le souhait de faire plus dans le club ou est-ce qu'à un moment donné, tu en as parlé de ça avec le président Aulas?
Non,
jamais.
Non, on en a jamais.
Ces ambitions, parce que tu les avais, ces ambitions, si tu allais à Rennes pour faire ça, c'est que tu te sens incapable et que tu aurais peut-être aimé qu'on te le propose. C'est pour ça.
Peut-être que j'aurais aimé qu'on me le propose, mais on en a jamais réellement discuté avec Jean-Michel Aulas. Il pensait que j'étais très bien à ce poste-là. Et il a fait le choix de prendre Juninho, qui est très respectable.
Flo, tu as eu beaucoup de réussite dans tes recrutements à Lyon. Tu as décroché des pépites, des choses qui ont bien fonctionné. Il y a une chose qui fonctionne un peu moins, qui a un peu moins bien fonctionné, c'est Andersen. Est-ce que tu penses que ce garçon peut encore réussir et s'imposer?
Alors... tu sais, vous savez, le recrutement, c'est quelque chose de très particulier. C'est spécial. Et des réussites, il y en a. J'ai pas que des réussites. J'ai eu pas mal d'échecs aussi. Je suis pas stupide non plus. Après, quand on prend un joueur, on est convaincu qu'il va réussir. Donc moi, ce joueur-là, je l'ai vu 7 ou 8 fois à la Sampdoria de Gênes la saison passée. Il m'a fait une très forte impression. Après, on sait très bien aussi que quand on arrive de l'étranger, c'est une nouvelle ligue, un nouveau championnat, des nouveaux collègues, un nouveau club. L'adaptation, elle se fait pas forcément immédiatement. Et après, c'est à lui de d'en faire plus pour montrer les qualités qu'il a. Mais c'est difficile de dire que c'est un échec aujourd'hui. Je pense que demain, on lui laissera une saison supplémentaire. Mais je pense qu'il réussira. S'il c'est pas à Lyon, il rebondira. Ouais.
Rappelons que tu as aussi fait venir Ndombele, Mendy qui sont des vraies réussites.
Non, mais après, du gars, tu sais très bien les réussites d'un joueur dans un club, elle est liée à tellement plein de choses.
Bien sûr.
Voilà, pas seulement à la qualité du joueur.
Du gars peut en parler.
Oui, tu es bien passé pour en parler. Les qualités du joueur qui sont remises à remettre en cause, c'est tout ce qui se passe autour du joueur aussi et du club.
Bien sûr. Est-ce que tu penses, alors on est à peu près tous d'accord, mais est-ce que toi tu penses que, comme moi, qu'on n'a pas été champion en 98 avec l'OM par la faute de Roland Courbis?
Et il nous écoute, il est là, il est dans les studios, il nous écoute, fais gaffe Flo.
Dis-moi ce qu'il n'a pas fait de bien alors.
Il m'a sorti contre le PSG déjà, c'est très
grosse erreur.
Il m'a sorti aussi.
C'est plus loin.
Vous pouviez pas être champion.
Mais vous aviez enchaîné pas mal de matchs à ce moment-là. Fallait prévenir la blessure.
Combien de fois? Parce que moi, il a dû me faire le coup une bonne cinquantaine de fois. Combien de fois il t'a dit tu seras titulaire en deuxième mi-temps? C'est ça. Moi aussi. Bon.
Dernière question sur le mercato.
Oui, une dernière question. On a beaucoup entendu parler, Florian, de Cuisance, par exemple, au milieu de terrain. Est-ce que vous cherchez un joueur au poste de sentinelle? Et quel est le projet avec Nzonzi? Est-ce qu'il est vraiment totalement impliqué? Est-ce que Julien Stéphane compte sur lui?
Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis arrivé, il est totalement, totalement investi, Steven. Il n'y a aucun sujet à ce niveau-là. Il est là, il reste avec nous. Voilà. Après, concernant la première question, aujourd'hui, on a un nombre assez important de joueurs au milieu, donc il n'y a pas de recherche à ce niveau-là.
Très Très bien. Merci beaucoup,
magnifique.
Florian.
Merci
Maurice.
Beaucoup, Flo. C'était très clair. C'était
merci
super. Et puis
bonne
surtout,
chance.
Bonne chance.
Ouais,
à toi.
Bonne chance.
À bientôt.
Florian Maurice, donc le directeur sportif du Stade Rennais. On remercie également Mohamed Bouassi pour toutes les
Merci, messieurs.
Et on revient.
Merci. Il y a des tuyaux quand même, Momo. Elle, il connaît tous les tuyaux.
Ah oui, oui, oui.
On essaye.
Ouais, et mais bon. souffle pas trop dans les tuyaux quand même.
Très bien, merci du gars.
Merci beaucoup du gars.
Ouais, je t'en prie, c'est un conseil. Hein.
Le tout c'est de souffler par le bon bout, hein, c'est tout. Hein.
J'espère que tu parleras avec un ton différent au maire de Bordeaux.
Voilà, avec nous dans on va voir si tu lui demandes si souffle dans le maire. S'il souffle dans les tuyaux, il va faire le lèche parce qu'il veut avoir le permis de construire. Elle connaît l'histoire.
Mais moi je suis vert.
Oui, bah oui, allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Tim Dugas continue jusqu'à 20h sur RMC avec Eric Dimeco, avec Franck Leboeuf, avec Jean-Louis Tour. Et c'est le moment, mon Jean-Louis, de recevoir le maire de Bordeaux.
Juste avant le programme du journal moyen avec Adrien Aygouin. Salut Adrien.
Salut les copains. Il y a 2 ans, jour pour jour, tous autour de la table, vous étiez en train de débriefer ce France-Argentine en 2018. Le match déclic de la Coupe du Monde des Bleus. On va revivre ce match tous ensemble à la sauce RMC. Il s'est passé plein de choses ce jour-là pour les Bleus, mais aussi pour... les commentateurs d'RMC.
Très bien. Eh bien, on aura ça tout à l'heure. Donc, avant d'accueillir le maire de Bordeaux, je voudrais juste quand même vous faire réagir à ce dont on va lui parler dans un instant. Pierre Urmic, qui sera avec nous dans une seconde. Mais donc, il a d'ores et déjà annoncé qu'il allait demander à King Street, l'actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux, de remplacer Monsieur Longuepé comme président du club. On va voir s'il confirme tout ça dans un instant. Mais en lisant ça, les syndicats de clubs professionnels ont dénoncé une ingérence totalement inacceptable. Acceptable aussi bien dans le fond que dans la forme. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que c'est choquant qu'un maire se mêle de la vie d'un club pro, du gars?
Écoute, sur le principe, je te cache pas que normalement, un maire ne doit pas s'initier dans les affaires d'une entreprise privée. C'est vrai qu'il y a une forme d'ingérence. Je peux comprendre l'attitude des autres présidents et dirigeants. Maintenant, ce qui se passe à Bordeaux depuis de trop nombreux mois est tout simplement scandaleux. Les gens à la tête du club se moquent ouvertement des supporters, des partenaires, des politiques. Il y a eu des déclarations de la part de Monsieur Longuepé très très dures envers ses supporters. Dans Girondins de Bordeaux, il y a Bordeaux. Donc je comprends qu'à un moment ou un autre, le maire puisse demander des comptes. Rappelons que le maire de Bordeaux, quand même, met à disposition le centre du Haillan, le centre d'entraînement aux Girondins de Bordeaux. Donc,
alors Dugas, tu vas pouvoir continuer
de demander des comptes
et de développer ton point de vue.
C'est pour ça qu'il le fait.
En discutant avec lui, puisque ça y est, il est avec nous en direct. Pierre Urmic, donc le nouveau maire de Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir, monsieur le maire. Félicitations.
Bonsoir, monsieur Dugarry.
Merci d'être là dans Team Dugas. C'est un honneur de vous recevoir. Déjà, félicitations pour votre élection. Déjà, depuis le temps que vous étiez dans l'opposition, j'imagine que ça va être un super moment pour vous, j'imagine.
Oui. J'attendais depuis un moment ce basculement de la ville de Bordeaux et voilà, je suis heureux que ça se soit passé dimanche.
Bon, super. Dites-moi, président, on fait tous à peu près le même constat. Alors, les gens un petit peu plus proches du club. Le club est en énorme difficulté actuellement. Vous avez franchi un cap dans vos déclarations il y a quelques jours de ça. Je crois que c'était hier ou avant-hier dans l'équipe en disant que vous vouliez la démission du président Longuepé. Vous êtes qualifié d'ingérant ou d'ingérence de la part des autres présidents. Qu'avez-vous à dire là-dessus?
Oui, je viens de voir effectivement le syndicat du club. Dénonce l'ingérence du gouvernement de Bordeaux, j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'il s'habitue. La seule ingérence qui supporte jusqu'à présent, c'est l'ingérence financière, c'est-à-dire qu'on les aide. Vous citiez le Haillan, c'est un bel exemple quand même d'une ville qui aide sérieusement son club de football. Donc ça ne les dérange pas, mais que le maire puisse avoir un point de vue sur l'ambiance qui règne actuellement entre le club et les supporters, ça ne supporte pas. Mais il faudra qu'il s'habitue. Moi, je ne peux pas accepter que le président du club se soit mis à dos les supporters, les ultramarins. On a la chance, en plus à Bordeaux, d'avoir un club de supporters plutôt exemplaires. Ils ont réussi à se les mettre à dos. Moi, j'étais samedi avec eux quand ils ont manifesté sur la place de Valens. Ils étaient 3000. Il y a un malaise. Alors, si M. Longuepé et King Street sont incapables de déchiffrer le malaise, moi, je vais les aider à le déchiffrer.
Justement, vous avez aussi sollicité pour pouvoir parler au patron de King Street. Alors jusqu'à présent, il a toujours été représenté par quelqu'un. Vous voulez lui parler en direct. L'ancien maire avait aussi essayé de le faire. Il a eu des réponses dans la presse comme quoi il aurait droit à pas grand-chose, si ce n'est éventuellement à une lettre écrite de la part de King Street. Est-ce que vous pensez, vous, pouvoir parler au patron de King Street pour lui expliquer la situation et pour dire que ça ne peut plus durer?
Je pense que pour King Street aux États-Unis, les Girondins de Bordeaux, c'est peanuts. Et que le maire de Bordeaux, c'est vraiment peanuts. Je pense que dans un premier temps, ils ont un représentant local qui s'appelle M. Herman, que je ne connais pas. Donc moi, je vais demander à rencontrer M. Herman très rapidement pour voir s'il y a moyen d'avancer. D'abord, pour connaître ses intentions sur le devenir du club. Est-ce qu'il est en vente, comme certains le disent? Est-ce qu'il est à la limite du dépôt de bilan, comme d'autres le disent? Bon, je pense que j'obtiendrai des informations de la part de M. Herman. Si
Et vous comptez Herman, toujours lui demander le départ de Frédéric Longuepé?
Oui, sauf si m'apporter des assurances en me disant qu'il y a un nouveau Longuepé qui existe, et si c'est pour remplacer Longuepé par un Longuepé bis, je veux pas trop personnaliser, si vous voulez. Peut-être que vous êtes maire, vous avez peut-être plus de distance, mais je veux pas personnaliser autour de la personne de M. Longuepé. Je veux pas qu'il me dise ok, M. Longuepé partira et on va vous mettre un autre qui sera un Longuepé bis et ça sera pareil. Je veux vraiment avoir des assurances qui mettent un président du club qui n'est pas l'arrogance qu'a M. Longuepé vis-à-vis des supporters et qui ne commette pas les maladresses qu'a commis M. Longuepé. Si M. Longuepé, s'il y a un nouveau Longuepé qui peut naître de sa personnalité, ce dont je doute fortement, voilà, je veux pas donner l'impression, mettez-vous en place du nouveau maire qui commence à couper les têtes. Donc, actuellement, j'entends en tout cas la revendication des ultramarines qui disent ça suffit, il nous a suffisamment maltraité, on veut son départ. Donc, je vais me faire quand même un peu le porte-parole de ce malaise en me disant que un actionnaire comme King Street ne peut pas se payer le luxe de se mettre à dos en même temps et les supporters du club et le maire de la ville. Je trouve que ça fera un peu difficile et un peu désordre. Donc c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, le maire doit un peu taper du poing sur la table pour que la situation ne dure pas. Et puis qu'on envisage aussi. Enfin, moi, je pense que le modèle économique du foot, à un moment donné, c'est le rôle des politiques, même si les autres ne le supportent pas, c'est quand même le rôle des politiques de taper du poing sur la table.
Justement, monsieur le maire, par rapport à ça, quelles seraient vos prérogatives par rapport à
qu'est-ce
à
que vous pouvez faire, en fait?
Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous avez
sur le plan juridique, pas grand chose, mais bon,
sur le plan populaire,
sur le plan de la discussion, je pense que beaucoup d'acteurs du monde footballistique et de supporters sont actuellement assez effrayés par les dérives du foot business. Moi, ça me paraît, le modèle économique du foot business, il est en train de se casser la figure. J'ai bien vu des déclarations qui avaient été faites au moment où King Street a racheté M6, le club des Girondins, notamment par le président de Lyon, Jean-Marie Aulas, qui disait quand même le foot est une activité particulière, et il pensait que ça pouvait s'avérer totalement incompatible avec les objectifs de fonds d'investissement qui cherchent à tout prix à valoriser rapidement, 4 ou 5 ans, un investissement quoi, qui ne se situe pas du tout dans la stabilité. Je pense que le monde du foot a aussi besoin de stabilité. Et j'ai lu Christophe Lillian, qui avait été ravi de lire la lettre que vous aviez la lettre ouverte hein, que vous aviez faite, et je me suis trouvé quand même énormément de proximité avec la sévérité de votre propos. Ça s'appelait le cri du cœur de Christophe Dugarry quand vous dites les Girondins de Bordeaux se meurent. Je pense que vous savez de quoi vous parlez.
Vous êtes
stade de trois quarts vide. Moi, j'étais contre la construction de stade de 43 000 places alors qu'on en avait un de 33 000 et qui marchait très bien, qui était en cœur de ville. Celui-là, il est au trois quarts vide. Donc, quand j'ai lu ça dans votre cri du cœur, je peux vous dire, je me suis dit, ah ben ça va, ça fait plaisir encore de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au foot et qui ont quand même une vision un peu plus moderne.
Dugarry a joué au sport, monsieur le maire.
Ah bah oui, exactement. Hein. Moi, je me demandais s'il n'était pas conseiller au culte. Ouais, c'est pas possible. Vous pensez tout pareil.
Non, mais dites-moi, monsieur le maire, vous savez quand même, alors je suis ravi, on partage beaucoup, beaucoup d'idées. Je suis ravi que vous rentriez comme ça dans la bataille en essayant de sauver notre club, d'être derrière les supporters, mais vous savez que ça va être quand même très compliqué parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. Il y a eu le changement de logo, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'il y a des problèmes entre les supporters et la direction. Et là où ça aurait pu être un petit peu pacifié avec l'abandon du changement du logo et tout ça, aujourd'hui ça y est, c'est officiel. Donc on voit quand même que c'est compliqué, ça va se tirer. Aujourd'hui, les supporters veulent à tout prix que Longuepé parte, et c'est non négociable. Donc aujourd'hui, la situation est très très difficile.
Oui, c'est la provoque. Hein.
C'est la
provoque. Moi, quand on avait vu M. Dagrossa, donc qui avait été GRCP, donc qui a racheté le club aux Girondins, j'ai bien compris très vite que la seule chose qui l'intéressait, c'était le nom Bordeaux. Il nous a dit, moi, je vais vous vendre Bordeaux en Chine, partout, etc. Ce qui l'intéressait, c'était la marque Bordeaux. Mais c'était, à aucun moment, on l'a interrogé sur le projet sportif. Moi, je m'en étais plein auprès d'Alain Juppé. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que ce gars-là ne nous parle pas de son projet sportif? Il dit, mais vous verrez, monsieur, mais ça viendra, ils en parleront. Je lui ai dit, mais il faut parler maintenant. Où sont les engagements de ces gens-là de s'inscrire durablement dans la vie d'un club de football qu'ils ne connaissent pas, les Américains, ils ne connaissent pas le football français. Donc Bordeaux, par contre, effectivement, ça les fait scintiller. Il avait des étoiles dans les yeux quand il parlait de Bordeaux. Mais bon, voilà, c'était la marque.
C'est pour ça que le logo aujourd'hui officiellement a changé des Girondins de Bordeaux. Et sur le logo, il n'y a plus marqué Girondins de Bordeaux. Ça n'existe plus.
Ce qui existe. Ouais, mais ça, moi, je trouve.
Il y a marqué Bordeaux Girondins.
En gros Bordeaux
et Girondins en dessous.
Alors, ouais. Monsieur le maire, question d'Éric Dimeco.
Oui, monsieur le maire, pendant la campagne, vous avez rencontré les supporters. Est-ce qu'ils sont allés faire le tour un petit peu des candidats pour exprimer leurs problèmes? Et donc, du coup, si vous les avez rencontrés, aujourd'hui, vous êtes un peu, du coup, leur porte-parole, finalement?
Non, je les ai rencontrés, je pense qu'ils sont assez grands. Moi, je veux pas, vous savez, je veux veiller à ce qu'il n'y ait pas une récupération politique. Hein, franchement, c'est pas du tout mon.
Monsieur le maire,
je me sens concerné, mais je veux les mettre à l'aise parce que je pense qu'ils ont des opinions politiques différentes, variées, heureusement, qui ne sentent pas. Alors, en tant que candidat, c'est délicat. En tant que maire, ça me sera plus facile parce que bon, je suis le maire de tous les Bordelais, donc de tous les supporters, et j'ai l'impression que tous les supporters sont pour le départ. Donc, je me ferai leur porte-parole auprès de M. Herman et de Kim Street. Alors, j'espère que personne n'y verra malice.
Ouais, non, juste une dernière question. Avez-vous avez-vous des infos sur le déficit, le trou du club, les finances du club? Est-ce que vous avez des infos à ce sujet-là
Non. Je n'ai que ce qu'il y a dans la presse, donc c'est exactement la même chose que vous. Donc, je ne sais pas. Ce qui me préoccupe, j'imagine, comme vous, c'est quand même qu'on s'oriente vers un dépôt de bilan, parce que ça serait un drame avec les divisions en D2, qui serait, on l'a déjà connu à Bordeaux.
Ce serait même plus bas que Ligue 2, s'il y a un vrai dépôt de bilan.
Un vrai dépôt de bilan, ce serait même encore plus bas,
Ça sera. À un moment donné, on a envisagé que les difficultés liées à la période Covid pouvaient éviter cette automaticité, mais je n'en ai pas entendu reparler de ça. Ça vous dit rien? Non.
Non, ça va être le passage devant la DNCG.
La clé, c'est
de
ça.
Ce passage va découler beaucoup de choses.
Merci beaucoup.
Dernière question que Dugas ne veut pas vous poser, monsieur le maire, il va être obligé de vendre son gros 4x4 diesel qui consomme 42% pour rouler dans Bordeaux.
Je n'ai plus de voiture depuis bien longtemps.
En
je suis à vélo
ou
à Solex.
Voilà.
Ah bon, c'est dommage, je voulais l'acheter.
Vous avez réussi à faire mettre Dugarry au vélo, Merci, monsieur le maire.
Bravo. Monsieur Dugarry, tant que je vous ai, je serais content de vous rencontrer. Excusez-moi.
Avec plaisir. Par contre, on ne mangera pas du tofu ou des trucs comme ça, non? C'est pas obligé.
Non, je vous rassure.
Du quinoa.
Merci en tout cas, monsieur le maire de Bordeaux, Pierre.
Merci, monsieur le maire.
Bonne soirée. À bientôt sur RMC. On revient dans une seconde avec le journal moyen.
Encore un emploi fictif à Bordeaux qui se profile.
Non mais ça y est, moi j'ai tout qui connecte. J'ai compris pourquoi Dugas s'était mis au jardinage ces derniers temps.
Oui,
il a pris
sa
carte à Europe Écologie Les Verts.
Ça fait très longtemps que j'ai plus de voiture à Bordeaux. J'avais anticipé.
T'as le mec, il roule à vélo. Il roule à vélo. Il mange de l'herbe. Il fait le jardin.
Là, il y a
le truc. Et il tutoie monsieur le maire de Bordeaux parce qu'il a fait ça là.
Il appelle président.
Et il appelle le président.
Je le vois déjà président de la République.
C'est Éric Dimeco de Marseille qui a parlé d'emploi fictif, c'est ça?
Il en a eu un pendant longtemps, la mairie de Marseille.
Il
le sait, bien sûr.
Moi, j'ai tout ce que j'ai fait noir sur blanc.
Ça n'empêche. Il y a un contrat dans les emplois fictifs. C'est noir sur blanc. Bon, en tout cas, on le salue. On salue son énergie, monsieur le maire de Bordeaux.
Qui était avec c'est pas facile.
Et sa persévérance, parce que je crois qu'il s'est présenté 4 ou 5 fois.
Oui, c'est ça.
Bravo.
Franti, très vite.
Non, c'est juste qu'on n'y arrivera pas. Donc
je vais essayer de...
Non plus.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h48, Team Duga continue jusqu'à 20h sur RMC, c'est le moment du journal moyen.
On y va avec Adrien Aigouin, juste après le Barça à 19h.
Du journal moyen de Team Duga aujourd'hui sur RMC, Kylian Mbappé sera là, Benjamin Pavard est présent, Jeannot Rességuier sera également avec nous, les trois stars de l'équipe de France sont dans le journal moyen, c'est parti. C'est le 345e de l'histoire de Team Duga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport,
c'est le journal moyen de Team Duga.
Adrien Aigouin.
On se fait un petit plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de foot en France en ce moment. Julien, envoie-moi l'hymne connu il y a 2 ans. On est privé d'Euro. On va vraiment se faire plaisir. Nous sommes le 30 juin 2018. Vous étiez tous.
Mais c'est quoi cette musique?
C'est l'hymne de l'Euro 2018, de l'hymne de la Coupe du Monde 2018.
Ah,
je l'ai
même plus.
Et ouais, il est passé, on est passé un peu à travers.
C'est pas le plus réussi.
Alors nous sur RMC à la fin, on retient plus le générique de la Coupe du Monde sur RMC que l'hymne officiel de la Coupe du Monde. C'est comme ça. Nous sommes le 30 juin 2018, donc il y a 2 ans, 8e de finale France Argentine. Vous étiez tous en train de travailler autour de la table. Voilà, même Dugas.
Non, je crois qu'il travaillait pas.
8e. Non, s'il était là au début, il est parti, il est revenu.
Non, il était pas là.
Non, je pense que c'était le moment où il n'était plus là.
Attends, mais en 4 ans, j'ai raté 2 teams du gars en 4 ans.
Arrêtez, non, mais il y avait pas cette image.
Oui, mais
la Coupe du Monde.
Comme par hasard, tu as raté le quart de finale et la demi-finale.
Non, la Coupe du Monde 2018, c'était un modèle.
8e.
On en parlera à nos enfants.
Oui, c'était pas dans mon contrat.
8e de finale, il y a 2 ans.
C'est ce jour-là que j'ai mis ton poster dans ma chambre.
Il y a 2 ans, France-Argentine, le match du déclic, le match qui a tout déclenché. Mbappé qui traverse le terrain, la France qui découvre Benjamin Pavard. La France est menée 2-1. On est dans le dur, mais Jeannot Rességuier, lui, n'est pas dans le dur. Il est à fond, Jeannot.
Matuidi, il faut qu'il y en ait un ou deux là qui remettent l'équipe de France dans le sens de la marche avec le bon ballon de Matuidi. Lucas Hernandez qui va centrer. Le bon centre de Lucas. Ça revient derrière avec la frappe de Pavard. Et le but. Oh, le but. Quel but. Quel but. Quel but de Pavard. C'est Pavard qui redonne.
Bon, c'est plus beau de la compétition. Je crois qu'il y a un petit problème de montage sur le replay proposé par RMC à l'époque. Reprise croisée magnifique dans la lucarne. Qui marque le but, Jeannot?
Pavard.
On a compris, Jeannot. Alors juste sur le premier extrait du but que vous avez entendu, quand Jeannot annonce vraiment le but de Benjamin Pavard, il y a eu un léger montage pour les best-of. Moi j'ai trouvé ça un peu particulier parce que sans montage c'est beaucoup plus clair.
Quel but. Quel but de Benjamin Pavard.
Ben voilà, sans montage c'est quand même beaucoup plus clair. Jeannot. Un classique de Jeannot Rességuier sur le troisième but des Bleus. J'avais oublié Mbappé dans la surface, bah c'est là, à la 64e, Jeannot.
Le ballon frappé en demi-volée, Matuidi. Mbappé. Et le troisième but.
Non mais c'est vrai.
Et le troisième but.
C'est là.
C'est l'enthousiasme.
C'est là le Mbappé. Bravo, voilà. Et je voulais 2 ans après. Vas-y, Jean-Louis.
On se régale, Francky, avec ses commentaires.
Ouais, mais moi, j'aurais aimé faire un truc.
Oui.
Et je voulais 2 ans après magnifique revenir sur le 4e but des Bleus. Le but du 4-2 marqué par Mbappé. Les Bleus creusent l'écart sur le contre de Matuidi, de Giroud. C'est bien joué. Sur ce but, Jeannot fait l'escroc. Je connais par cœur mon Jeannot. Sur ce but, j'avais oublié.
Et sur les autres.
Non mais là, c'est pire que ça. C'est l'escroc Jeannot dans toute sa splendeur. On écoute le contre pour les Bleus, 68e minute. On est en route, donc on est d'accord pour le 4e but de l'équipe de France.
Le bon ballon pour Giroud. Giroud qui récupère cette balle. Giroud, le décalage. Mbappé. Et le but.
Et là, Jeannot, c'est pas le 3e but de Jeannot, il y a une énorme erreur. Comment va-t-on faire pour les best-of, les séquences historiques qu'on diffuse 10 fois par saison? C'est pas le 3e but, c'est le 4e, Jeannot. Mais si on connaît bien Jeannot, vous le connaissez par cœur, il tombe de l'immeuble, il retombe sur ses pattes, aucun dégât.
Et le but! Et le but! Le 3e! Kylian Mbappé dans la compétition.
Jeannot Rességuier, escroc total qui s'est rattrapé au dernier moment. Et finalement, bravo, il restera
un chat.
Il restera dans les best-of au grand moment France Argentine.
Non, bravo. Non, parce que il faut vite faire le code de voir qui s'est trompé et de
savoir. Mais il a regardé vite fait la fiche.
Parce que oui, ma foi, c'est un métier, hein.
En disant le 3e but dans son tête, il fait le best-of et hop là, le 3e but de Kylian Mbappé
dans la compétition.
On attend pour une question pour Tania, une question pour.
Ah ouais, là c'est j'adore et j'adore Jeannot aussi.
Allez, on y va. Question pour. Toujours le 30 juin. Que se passe-t-il le 30 juin 2002, les copains?
2002, France-Danemark.
Finale de la Coupe du Monde. Ah. Brésil face à l'Allemagne, 2-0 pour le Brésil, doublé de Ronaldo. Petite question pour rapide d'une minute sur la Coupe du Monde 2002. Un joli souvenir pour Duga et Francky. Mm-hmm. Qui a été élu meilleur joueur de la compétition?
Ronaldo.
Non.
Rivaldo, Ronaldinho.
Dingue.
Un Coréen.
Non.
Oliver Kahn,
un gardien de but, c'est rare, hein, le gardien de but qui est élu.
C'est pas cette finale où il.
Bah écoute,
oui, il fait une petite boulette.
Ouais, tu sais, c'est la magie du foot et de la FIFA. Le meilleur joueur de la compétition est toujours élu avant la finale.
Ah,
oui. Auquel il y a un mec qui brille pendant la finale.
Et d'ailleurs, Messi avait été élu meilleur joueur 2014. De 2014.
En étant pas bon en finale et en perdant la finale. En 2002, chez les Bleus, chez vous, là, Francky et Duga.
Qui est le plus nul?
Lui, il dit, c'est moi! Qui porte? C'est peut-être le plus nul. Qui porte le numéro 13?
Will Thorn.
Non.
13.
Mais lui,
nul en
Carambeu.
Lui, il n'est pas à la Coupe du Monde. Et je crois qu'il n'est même pas à l'Euro 2000. Il arrive avec vous en 2000.
Miku.
Il était.
Carrière?
Non. Ils connaissent bien leurs potes quand même. Hein.
Bah, excuse-moi.
Bon, il a joué peut-être 8 ans, 9 ans à Manchester United.
Qui? À Sylvestre?
Michael Sylvestre, c'est Eric Dimeco.
Ah oui, c'est vrai, c'est Mika.
Michael Sylvestre, oui.
Ah bon, il était en 2002.
L'Allemagne s'incline en finale face au Brésil. Qui est le boss, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne?
Klinsmann? Non.
Non.
Il aurait pu, comme Deschamps, être champion du monde, joueur et sélectionneur.
Matthäus?
Vous êtes nul.
Attends, ne le dis pas.
Mais vous êtes nul en foot.
C'est qui?
Ça fait 4 ans que je le dis.
C'est quoi l'émission l'année prochaine? Top of the foot.
Ouais. Bah, c'est pas qui c'est le coach.
Mais le sélectionneur de l'Allemagne en 2002 qui perd face au Brésil.
Voleur.
Rudy Voleur.
Ah, c'est Rudy.
Ah ouais. C'est Rudy qui arrive en finale.
Plus, Rudy Voleur.
Eric, tu déconnes là.
Il a très Michael Sylvestre.
Nous à la limite.
Il a très Michael Sylvestre. Ça rattrape un peu.
Et puis la dernière, côté allemand dans le groupe de l'Allemagne qui est finaliste, quel est le seul joueur dans le groupe qui appartient à un club français au moment de la finale de la Coupe du Monde?
D'un quoi, d'un?
Il appartient à un club français. C'est le seul.
L'Allemagne.
Ouais.
En 2000, on est en quoi, 2002? Oh la vache.
Il est connu.
Il est connu.
Il venait de signer à Monaco. Un Allemand. Oliver Bierhoff. Bien joué, Jean-Louis Tour.
Ah ouais.
Allez, merci à
vous. Pour réviser 2002, là, vous n'êtes pas.
Non, bah, tu vois, non, mon.
Bon,
aussi bon, 18 ans après aussi.
Cette Coupe du Monde,
non, c'est pas eux, ils sont sortis, ils n'ont rien suivi, Franck et Dugas.
Ah non, d'ailleurs, j'y étais pas, moi. Moi, j'y étais pas, la Coupe du Monde.
Moi non plus,
vous y étiez pas. L'équipe de France, y était pas.
Allez, merci, Eric. Bonne soirée, on revient dans un instant avec coach Courbis, Fred Hermel sur le Barça. Le club doit-il faire sa révolution en profondeur? Et puis on revient sur ce moment dramatique où Depay a jeté son maillot au sol. A tout de suite.
RMC, 18h-20h, Team Duga.